Eh bien, mes amis, l'heure étant venue, nous allons commencer notre dernière méditation, notre dernier recueillement devant le Seigneur. Ce matin, nous avions à répondre spécialement à cette question: quel est le secret d'une vie transformée, de notre vie transformée? Et la réponse, nous l'avons souligné, elle est dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, c'est versets 17 et 18, je les relis pour que tout soit bien lié ensemble. Or le Seigneur est l'Esprit, mais là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté, bien que nous puissions réaliser cela aussi cet après-midi ensemble, que vous puissiez vous sentir libre, non pas de dire n'importe quoi, mais libre devant le Seigneur pour lui dire les choses qui peuvent le glorifier et l'honorer, être pour l'édification de vos frères et de vos sœurs. Or nous tous, contemplant à face découverte ou à visage découvert la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. C'est un texte capital, c'est en contemplant Jésus que vous êtes transformés. Et voyez-vous, quand on contemple Jésus, on n'est plus préoccupé de soi. On s'oublie soi-même. Et je voudrais vous donner l'exemple de Moïse. Moïse, quand il redescendait de la montagne, il est dit que son visage rayonnait. Pourquoi? Parce qu'il avait parlé avec lui. Vous avez ça dans le livre de l'Exode. Son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec lui. Mais est-ce qu'il le savait, son visage rayonnait? Non. Il ne savait pas que son visage rayonnait. Mais ceux qui le voyaient, voyaient ce resplendissement sur son visage. Et c'est à cause de cela qu'il a mis un voile sur son visage. Mais lui ne le savait pas. Quand vous êtes préoccupé du Seigneur, vous vous oubliez vous-même. Et quand vous vous oubliez vous-même, vous ne péchez pas. Ça, c'est certain. C'est le grand secret. La dépréoccupation de soi-même, vous l'avez dans la contemplation du Seigneur. Et le Seigneur vous possède. Et c'est quelque chose de merveilleux. Laissez-vous posséder par le Seigneur. Vous entrerez dans cette sphère dont nous vous avons parlé. Vous serez entouré par le Seigneur, devant vous, derrière vous, à votre droite, à votre gauche, au-dessus de vous, l'ombre du Tout-Puissant vous couvre, et au-dessous de vous sont les bras éternels. On ne peut tomber que dans les bras du Seigneur. Et c'est là la vraie délivrance. Être en Christ comme dans une sphère. Et croyez-le, c'est cela qui est un fait divin. Un fait que vous pouvez croire indépendamment de vos sentiments. Moïse ne savait pas. Moïse ne sentait pas que son visage rayonnait, mais il avait parlé avec lui. Et nous lisons dans le psaume 34 aussi cette parole merveilleuse qui m'a bien aidé quand j'avais 14-15 ans et que j'étais souffrant dans un hôpital dans ma jeunesse. Eh bien, cette parole, il est dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34e, verset 6 et 7. Tournez vos regards vers lui et vous serez rayonnant de joie. Et l'on apprend même à nous décharger de tous nos soucis et à comprendre que nos soucis sont des péchés. Oui, quand vous vous faites du souci, cela le Seigneur me l'a fait comprendre pour moi-même, mes soucis, je les confesse comme des péchés. Comment est-ce que je me débarrasse de mes péchés? En les confessant. Comment est-ce que je me débarrasse de mes soucis? En les apportant au Seigneur. Le Seigneur nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Alors donc, c'est une parole du Seigneur. Mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, gardera vos cœurs qui s'agitaient, vos pensées qui se troublaient seront gardées en Jésus-Christ. Et pour courir la course qui est devant vous maintenant, puisque nous allons bientôt nous séparer, eh bien je vous répète encore ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 12. Ayant une si grande nuée de témoins qui nous environnent quand nous pensons à tous ceux qui nous ont déjà devancés et qui sont morts dans la victoire et dans l'espérance du retour du Seigneur et dans la certitude que quand il viendra, ils seront ressuscités, que eux aussi seront rendus conformes à son image. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, nous dit l'Écriture, puis nous les vivants, nous serons changés en un instant et avec eux, nous nous en irons auprès du Seigneur. Et alors c'est là qu'il y aura vraiment la conformité. Nous serons rendus conformes au Seigneur. Rendus semblables à lui. Pourquoi? Parce que nous le verrons tel qu'il est, face à face. C'est dans l'épître de Jean, au premier chapitre, au chapitre 3, Jean 3. Celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Il n'y a pas de vérité plus sanctifiante que l'attente et l'espérance du retour du Seigneur. Quand il lui viendra, je le verrai, et quand je le verrai face à face, je lui serai rendu semblable. Il n'y aura plus rien de ce qui est charnel, de ce qui est terrestre. Et pourtant, nous aurons un corps. Un autre corps, un corps de gloire, comme celui du Seigneur. Et alors, c'est le dernier texte que je vais vous relire, et puis ensuite, c'est vous qui avez la parole. Mais pour montrer que le plan de Dieu arrive à son achèvement, nous reprenons dans le chapitre des Romains, ce qui résumera tout. Verset 28. Nous savons que toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. La version seconde dit nous savons que toutes choses concourent. Ce texte a été corrigé dans la version La Colombe et on a mis toutes choses coopèrent. Mais Darby, qui était très proche du texte, a dit toutes choses travaillent. Et c'est le vrai mot. C'est le travail d'une femme enceinte. Une femme qui est enceinte, on dit qu'elle est en travail à un moment donné. C'est pas un simple concours. Ça fait mal. Certaines choses vous font mal. Et vous ne devez pas être étonné de cela. Certaines choses font mal à la chair, mais le Seigneur a souffert dans la chair, c'est vrai. Mais ça va déboucher, votre souffrance, cette souffrance-là, va déboucher sur une vie nouvelle. Comme la femme enceinte, elle sait qu'elle va donner la vie à un être. Et ensuite, elle ne se souvient plus de ses souffrances. C'est cela qui est merveilleux. Eh bien, que la grâce du Seigneur vous soit donnée et que vous puissiez être convaincus que rien dans ce qui vous arrive est contre vous. Toute chose travaille, coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, quel est le secret pour nous? Il nous faut aimer Dieu. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il sort dans sa force. Lisons-nous dans les Juges, un livre merveilleux. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il sort dans sa force. Juges. Chapitre 5, le cantique de Déborah, le dernier verset, ceux qui l'aiment. Et toute chose travaille au bien de ceux qui l'aiment. Et dans l'Épître aux Corinthiens, il est dit encore au chapitre 2 de la première Épître, au verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est toujours ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment, il y a des choses qui sont préparées et qui pourront dépasser votre attente. Vous allez quitter ce lieu, cette retraite se termine, mais vous pouvez être assurés que si vous saisissez, si vous vous appropriez cette parole, vous en ferez l'expérience. Des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées à votre cœur, c'était une impossibilité. Et ça est devenu possible. Vous marchez dans l'exaucement et vous entrez vraiment dans la louange. Et alors, après ce fameux verset, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai quelquefois employé ce verset pour décrire la vie de Joseph. La vie de Joseph, tout travaillait contre lui, semblait-il. Tout était contre lui. Et pourtant, tout était pour lui, par toutes ces épreuves, Dieu le préparait à quoi ? À être le premier après le Pharaon. Parce qu'il fallait qu'il ait une préparation. Et quand l'heure est venue, Joseph, resté fidèle, est appelé à devenir le gouverneur de ce pays d'Égypte. Toutes choses travaillent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos, selon son dessein. Et alors, quel est le dessein de Dieu ? Ceux que Dieu a connus à l'avance, ou qu'il a préconnus. Donc, vous avez eu une place dans la pensée de Dieu avant la création du monde. C'est quelque chose de fantastique. Vous étiez dans la pensée de Dieu avant la création du monde. Vous aviez une place dans son cœur. Il vous a connu à l'avance. Et il vous a prédestiné à être conforme à l'image de son Fils. C'est cela le destin de Dieu. Vous n'étiez pas prédestiné à la mort, à la souffrance, aux humiliations du sépulcre. Vous étiez prédestiné à la gloire éternelle. Mais, comme vous étiez une créature libre, comme l'a été Adam, eh bien, il y avait un choix à faire. Adam l'a fait, ce choix, et il a perdu, évidemment, sa liberté, et il est devenu l'esclave. Mais Dieu, dans son amour, avait couvert le risque d'une créature libre, et au temps convenable, il nous a envoyé le Rédempteur. Il est venu lui-même pour nous sauver. Et nous avons vu toutes ces choses dans cette retraite. Alors, puisque nous avions fait le mauvais choix, eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait ? Ceux qu'il a préconnus, qu'il avait prédestinés à être semblables à son Fils, il a dû les appeler. On est appelé simplement parce qu'on sait éloigné. Eh bien, Dieu nous a appelés. Et c'est ce que vous trouvez dans la Genèse. Il a appelé Adam pour la première fois. Parce qu'avant, Adam allait à la rencontre du Seigneur. Ils étaient heureux ensemble, ils étaient en communion, ils n'avaient pas peur de Dieu. Mais voilà, tout à coup, quand il a péché, il se cache. Et Dieu lui dit, Adam, où es-tu ? Et il nous a appelés. Eh bien, il vous a appelés. Mais Adam, sortant de l'ombre, doit comparaître devant le Seigneur, il est dans cette nudité, et il est coupable, mais celui que Dieu a appelé, il l'a justifié. L'œuvre de la justification a été accomplie par Dieu. C'est Dieu qui a couvert Adam et Ève de vêtements, de peau. Il y a donc eu le sacrifice, et vous voyez que toute la Bible pourrait nous enseigner une multitude de choses. A préparé le plus excellent sacrifice. Nous sommes justifiés par quelle œuvre ? L'œuvre du Christ. Christ a été l'agneau, la victime. Et nous sommes maintenant revêtus de Christ. Christ est vraiment celui qui nous revêt. C'est ce que vous avez dans le chapitre 13 des Romains. Il est dit, ne prenez pas soin de la chair, mais revêtez-vous du Christ. Revêtez-vous du Christ pour traverser le monde avec ce vêtement qu'est le Christ. Je suis caché dans le Christ pour traverser le monde. Ceux qu'il a appelés les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, qu'est-ce qu'il a dit ? Il les a aussi glorifiés. Par un autre chemin, nous arrivons quand même à la gloire. Voilà les étapes du plan de Dieu. Préconnu, c'est la première chose, connu à l'avance. Prédestiné à la gloire, et cette prédestination, vous pouvez être sûr qu'elle aura son accomplissement, mais comme nous nous étions éloignés, il nous a appelés. Si vous avez répondu à son appel, vous êtes devant lui, et pour que vous puissiez vous tenir devant lui, il vous couvre de sa justice, c'est lui qui vous revêt de sa justice, et qu'est-ce qu'il vous reste à connaître ? La gloire. Mais c'est comme si c'était déjà fait. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est déjà à vous la gloire. Possédez déjà cette gloire, cette certitude de la gloire. Est-ce que vous avez la certitude de la gloire éternelle? Ou bien est-ce que vous avez la certitude de l'abîme? Vous avez la certitude de la gloire. C'est comme si c'était déjà fait. Il donne la grâce et la gloire, nous dit le psaume 84, verset 12. Il donne la grâce et la gloire. La grâce, nous l'avons, nous savons ce que c'est que la grâce, mais maintenant, ce que nous avons devant nous, c'est la gloire. Nous sommes assurés de la gloire. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alors, vous voyez ce cantique merveilleux qui introduit nos louanges. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui-même qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui? Est-ce que vous croyez? S'il a donné le plus, il donnera bien le moins aussi. Hein? Il a tout donné. Il a donné son propre fils. Comment ne nous ferait-il pas don de toutes choses avec lui? Vous voyez les possibilités que vous avez devant vous? Qui intentera accusation contre des élus de Dieu? Qui était l'accusateur? C'est Satan. On a découvert que c'était un menteur. Et qu'il a été vaincu par la mort de Jésus. L'homme fort qui avait la domination de la mort a été vaincu. De sorte que même la mort, elle est à nous. Tout est à vous. Même la mort, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, nous dit Paul aux Corinthiens. Tout est à vous, et vous, vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Quelle chose merveilleuse. Voilà la vie de victoire que nous pouvons avoir. Qui est contre accusation contre des élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alors, qui est celui qui condamne? Le seul qui aurait pu nous jeter la pierre, qui aurait pu nous condamner, c'était le Christ qui était sans péché. Mais celui qui condamne, c'est Christ qui est mort, mais plutôt qui est ressuscité. Voilà des faits, mort et ressuscité, mais pas seulement lui, mais nous, dans sa mort, nous sommes morts et nous sommes ressuscités en lui. Et il est où? À la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait à la droite de Dieu? Il intercède pour nous. Quand un jour on m'a annoncé que dans certaines églises, on avait interdit de prier pour moi, qu'on n'entende plus mon nom dans une église, celui qui prononcerait, qui oserait faire une prière pour moi, serait excommunié, mis hors de la table du Seigneur. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est des prières qui ne montent pas plus haut que le plafond, de toute façon, bien souvent. Tandis que nous savons une chose, c'est que le Christ intercède pour nous. Oui, il y a des souffrances, c'est vrai. Nous sommes des hommes qui savent ce que c'est que la souffrance, l'abandon, le reniement. Mais il y a quelqu'un qui prie pour nous. Et c'est le Christ. Christ prie pour nous. Il intercède pour nous. Et il est toujours exaucé. Alors, Christ intercède pour nous. Qui est-ce qui nous séparera de l'amour du Christ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous séparer de l'amour de Christ? Passez tout en revue. Tribulation, détresse, persécution, famine, nudité, péril ou épée, selon qu'il est écrit, pour l'amour de toi nous sommes mis à mort tout le jour. Nous avons été estimés comme des brebis de tuerie. Oui, la persécution peut venir, la souffrance peut être là. Au contraire. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est le thème de notre dernière retraite de l'année. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et alors, je suis assuré. Il n'est pas dit j'espère, mais je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. Eh bien, que ces paroles demeurent en vous et que ce que Dieu a commencé dans votre cœur, qu'il puisse vraiment l'accomplir, et il le fera dans la mesure où vous-même
vous vous laissez faire, vous vous abandonnez à lui, vous lui faites éperdument confiance. Vous ne pouvez tomber que dans les bras éternels. Et quand on tombe dans les bras éternels, on connaît la divine étreinte, l'étreinte du Père. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et qu'il nous sanctifie pour les moments que nous allons passer ensemble.